du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 32e dimanche. Une foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. Dans son enseignement, il disait
« Prenez garde aux scribes qui tiennent à parader dans leurs habits, aux salutations sur les places publiques, au premier banc dans les synagogues, aux premières banquettes dans les festins. Ceux qui dévorent les maisons des veuves et font comme prétexte de longues prières, ceux-là recevront une plus grande condamnation. »
S'étant assis devant la salle des troncs, il se met à observer comment la foule dépose de la monnaie dans le tronc. Beaucoup de riches déposent beaucoup. Vient une seule veuve, pauvre, qui dépose 2 piécettes, ce qui fait 1 quart de sou. Appelant ses disciples auprès de lui, il leur dit
« Amen. Je vous dis que cette veuve, cette pauvre, a déposé plus que tous ceux qui ont déposé dans le tronc. Car tous ont déposé en prenant de leur superflu, mais elle, elle a déposé en prenant de son indigence tout ce qu'elle a, tous ses moyens de vivre. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, voici 2 petits portraits, celui des scribes et celui de la veuve. 2 petits portraits dont on ne voit pas à première vue ce qui les rassemble. Et si la condamnation des scribes est évidente, il est moins clair de savoir en quoi la veuve est louée.
Ici, le contexte peut-il nous éclairer?
Eh bien, nous sommes dans les derniers jours de Jésus à Jérusalem. Il a accepté l'appellation de fils de David, à la fois de la part de l'aveugle Bartimée, mais aussi de la part des foules lors de son entrée à Jérusalem. Il est intervenu pour chasser le commerce qui se fait autour du temple. Avant d'annoncer la destruction du temple, Jésus va rappeler une fois de plus comment les leaders d'Israël ont failli à leur mission. Et ils ont failli en pratiquant des rites religieux, sans un amour vrai pour Dieu et pour le prochain. Le récit de Marc est très succinct. Alors, regardons le passage parallèle de Matthieu qui peut nous éclairer.
Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens siègent dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des gens, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des gens. Ils élargissent le phylactère et allongent leurs franges. Ils aiment à occuper les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à être salués sur les places publiques et à s'entendre appeler maître par les gens.
Le reproche est adressé par Marc aux scribes, les scribes qui sont les spécialistes de la Torah, des docteurs en droit. Si Matthieu ajoute les pharisiens, c'est sans doute parce que de nombreux scribes étaient membres du groupe religieux pharisien. Le reproche qui leur est fait, c'est de pratiquer leur religion en ayant surtout le souci de se faire remarquer. Ouais. Matthieu dit, toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer.
Prenez garde aux scribes qui tiennent à parader dans leurs habits.
Marc ne nous dit pas de quel habit il s'agit. Matthieu parle des franges que les scribes allongent. Il s'agirait du talit, un manteau spécialement utilisé par les rabbins et que l'on portait traînant. Il comportait des franges selon les indications de la Torah dans le livre des Nombres.
Le Seigneur Dieu parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites, tu leur diras de se faire des houppes au pan de leurs vêtements et de mettre un fil de pourpre violette à la houppe du paon. Vous aurez donc une houppe, et sa vue vous rappellera tous les préceptes du Seigneur Dieu. Vous les mettrez alors en pratique.
Plus on allongeait ces houppes, plus on montrait qu'on était un observateur zélé des préceptes. Ce vêtement spécifique permettait aux scribes d'être salués avec les honneurs de leur rang dans les lieux publics.
Prenez garde aux scribes qui tiennent aux salutations sur les places publiques.
Oui, sur les places du temps qui était encombré de marchands et de flâneurs, les docteurs de la Torah, les scribes, avaient donc tout le loisir de se griser des longues démonstrations de respect dont le peuple se faisait un devoir de les entourer. Eh bien, pour Jésus exploiter le prestige qui est conféré par des fonctions saintes, mais l'exploiter dans un but égoïste et futile, bien cela augmente la vanité, la malice de cette vanité.
Prenez garde aux scribes qui tiennent au premier banc dans les synagogues.
Les scribes, parce qu'ils sont les spécialistes de la Torah, avaient donc une grande autorité, une autorité que l'on traduisait souvent en disant qu'ils étaient assis dans la chair de Moïse, dans le fauteuil de Moïse. Des écrits juifs postérieurs nous disent que les scribes avaient des places spéciales même dans les synagogues. Ils étaient assis face à l'entrée, le dos à l'armoire sacrée qui contient les rouleaux de la Torah. Mais ils devaient être tentés de se prévaloir aussi de cette notoriété ailleurs que dans les lieux de prière.
Prenez garde aux scribes qui tiennent aux premières banquettes dans les festins.
L'ordre des places dans les repas festifs était réglé d'après les fonctions, d'après le rang social. Et Jésus avait déjà invité ses disciples à la modestie dans ces circonstances.
Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, de peur qu'on ait invité quelqu'un de plus important que toi, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire « c'est de lui la place ». Alors tu irais tout confus prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise « Mon ami, avance plus haut ». Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi.
On trouve d'ailleurs un conseil semblable chez un rabbi plus postérieur, vers l'an 110, un rabbi qui s'appelle Simon ben Azaï. « Descends d'où tu es assis de deux ou trois rangs, et là choisis ta place, car il vaut mieux qu'on te dise « monte » plutôt que « descends ». Eh bien, Jésus n'approuve probablement pas le calcul, mais il se sert de cet exemple pour donner un conseil beaucoup plus fondamental. « Quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé ». On retrouvera le même esprit, mais sous une autre forme, pour décrire le comportement du disciple de Jésus.
Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous.
Cette consigne se trouve également au final du passage de Matthieu, un passage qui est parallèle à notre texte.
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera baissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.
Jésus peut donner ce précepte à ses disciples parce que lui-même l'applique, car le Fils de l'homme, dit-il, est venu non pas pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il s'agit donc bien plus que de consignes de savoir-vivre. Jésus enseigne ici ce qui est fondamental à une vie en communauté, pour qu'elle soit une vie de communion entre tous.
Ceux qui dévorent les maisons des veuves et font comme prétexte de longues prières, ceux-là recevront une plus grande condamnation.
Il faut se rappeler que la situation faite par la Torah, faite aux veuves, était peu enviable. Écoutons le livre des Nombres.
Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez au frère de son père. Et si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent qu'il aura dans son clan.
Ainsi, on voit bien que la veuve ne pouvait pas hériter de son mari. Comme les orphelins et les émigrés, les veuves devaient donc être aidées par la communauté. C'est ce que demande d'ailleurs la Torah au livre des Nombres.
Tu ne biaiseras pas avec le droit d'un émigré ou d'un orphelin. Tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Si tu fais la moisson dans ton champ et que tu oublies des épis dans le champ, tu ne reviendras pas les prendre. Ce sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Si tu gaules des oliviers, tu n'y reviendras pas faire la cueillette. Ce qui restera sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Si tu vendanges ta vigne, tu n'y reviendras pas grappiller. Ce qui restera sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte tu étais esclave et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique cette parole.
Oui, il est sans cesse rappelé dans la Torah que ce devoir d'aider les veuves, eh bien c'est un devoir semblable au geste de Dieu lorsqu'il a libéré Israël du joug de l'Égypte.
Tu n'exploiteras ni n'opprimeras l'émigré, car vous avez été des immigrés au pays d'Égypte. Vous ne maltraiterez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu le maltraites et s'il crie vers moi, j'entendrai son cri, ma colère s'enflammera.
Ce devoir donc d'aider la veuve est un devoir sacré, analogue à celui de respecter la vie et de ne pas servir des idoles, comme va le rappeler le prophète Jérémie.
Amendez sérieusement votre conduite, votre manière d'agir, en défendant activement le droit dans la vie sociale. N'exploitez pas l'émigré, l'orphelin et la veuve. Ne répandez pas du sang innocent en ce lieu. Ne courez pas, pour votre malheur, après d'autres dieux.
On verra que les premières communautés chrétiennes veilleront à cette entraide. Les Actes des Apôtres le disent. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Eh bien, il s'agit ici des convertis hébreux, ceux qui viennent du judaïsme, et des convertis hellénistes, ceux qui viennent des autres peuples. Et c'est ce besoin qui va faire désigner sept hellénistes, qu'on appellera les diacres, afin qu'ils puissent assumer le service de partage auprès des veuves. La lettre de Jacques rappellera que cette bonne œuvre est essentielle à l'amour de Dieu.
La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici. Visitez les orphelins et les veuves dans leur détresse.
Eh bien, notre texte, lui, parle de dévorer les maisons des veuves. C'est sans doute vider ces maisons de tout le nécessaire pour vivre. On ne nous dit pas très précisément comment les scribes exploitent ces veuves. Mais il est clair que, sous prétexte de défendre les droits des veuves, en fait, ces scribes les appauvrissent. Et je crois qu'il faut unir les deux membres de la phrase, l'exploitation et les longues prières. En traduisant, ils dévorent les mains des veuves et font comme prétexte de longues prières, alors que l'on pourrait aussi traduire, ils dévorent les maisons des veuves et font en apparence de longues prières. En effet, la suite va nous dire que ceux qui agissent ainsi auront une sévère condamnation. Eh bien, déjà le livre de l'Exode disait que le cri de la veuve enflammait la colère de Dieu. Exploiter les veuves sous des motifs religieux, c'est donc effectivement un acte très grave et un acte qui va à l'encontre de la volonté expresse de Dieu. Mais faire semblant de prier ne peut sans doute pas être mis en parallèle avec ce geste criminel. Le testament de Moïse parlera lui aussi de ces hommes impies qui se prétendront justes, mangeurs des biens des pauvres, disant agir ainsi à cause de la justice, c'est-à-dire à cause du respect de la Torah. Avec ce portrait de scribes impies, voici maintenant le portrait d'une veuve. Remarquons que Jésus ne veut sans doute pas décrire tous les scribes. D'ailleurs, un peu auparavant, même dans le récit de Marc, il y a eu le portrait d'un scribe dont Jésus nous a dit qu'il n'était pas loin du règne de Dieu. Le Talmud, qui est un écrit juif, condamne de la même façon les croyants hypocrites et il en donne quelques exemples. Ceux qui se glorifient de leurs bonnes œuvres, ceux qui ne cessent de calculer les mérites de leurs bonnes actions, ceux qui font semblant de donner leur argent à des œuvres de bienfaisance. Alors, on peut penser que les récits évangéliques ont gardé ce portrait des scribes tout autant pour expliquer le rejet de Jésus par ces derniers que pour dire aux disciples ce qu'ils ne devaient pas être. En effet, le scribe est décrit comme l'exact contraire de ce que doit être un disciple. Le disciple de Jésus doit être quelqu'un qui vit dans le secret afin de ne pas chercher la gloire des humains, quelqu'un qui ne calcule pas ses mérites, mais va vivre au contraire la générosité et la gratuité. On a déjà ce portrait dans les conseils qui suivent les béatitudes dans le récit de Matthieu.
Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les gens pour attirer leur regard. Sinon, pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en vue de la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des gens. Amen, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Alors, ce portrait du disciple, bien, je pense qu'il ne faut pas le voir comme nous parlons d'abord d'humilité, de ne pas se pavaner devant les autres. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Il nous dit les conditions nécessaires pour que notre amour de Dieu et que notre amour du prochain soit vrai. Et cette condition nécessaire, c'est qu'il doit être gratuit. Chaque fois que l'on agit pour être vu, eh bien, on détruit la gratuité du geste. Ce geste ne peut plus être un geste d'amour. Et cette gratuité est donc fondamentale pour que notre relation à Dieu et notre relation avec les autres soient des relations vraies. Le portrait de la veuve vient donc dire ce que doit être un vrai disciple, celui qui aime de bonté généreuse, celui qui donc peut être alors en communion avec Dieu.
S'étant assis devant la salle des troncs, il se met à observer comment la foule dépose de la monnaie dans le tronc.
Dans le temple, Jésus se trouve probablement assis devant la salle où sont disposés les troncs qui sont destinés aux offrandes, une salle qui est attenante au parvis des femmes. Il devait y avoir 13 troncs près desquels se tenaient des prêtres. Les donateurs ne déposaient pas eux-mêmes leur argent, ils devaient déclarer aux prêtres la destination de leurs dons, et le don était alors déposé dans un tronc qui correspondait à l'usage qui en avait été demandé. Cette façon de faire encourageait sans doute des dons importants, qui n'étaient donc pas forcément le fruit d'une vraie générosité, mais plutôt qui étaient le fruit du désir d'être vu et de se faire valoir. Faisons une parenthèse, mais certains groupes religieux connaissent encore aujourd'hui de telles pratiques. Lors de l'assemblée de prière, on annonce haut et fort le montant du don que fait chaque fidèle. Et revenons à nos dons. Les dons sans destination spéciale étaient déposés dans le 13e tronc, qui servait à financer les holocaustes, les sacrifices d'animaux offerts en louange à Dieu. Cette pratique explique que Jésus ait pu connaître la valeur des dons offerts. Alors, par contraste avec les nombreux riches qui déposent de nombreuses pièces de monnaie, une seule veuve va offrir plus que tous. C'est ainsi que Jésus qualifie son offrande. Pourtant, son offrande ne représente qu'une très modeste somme. C'est le 1/8 de la ration quotidienne qui était distribuée chaque jour aux pauvres. Et Jésus dit que cette somme représentait précisément ce qui était alloué aux indigents pour survivre. Ce sont ses propres moyens de survie que cette pauvre veuve a donné. Alors, en quoi représente-t-il plus que les sommes des riches ? Il me semble qu'on peut retrouver encore ici la question de la gratuité. l'opposition n'est pas entre donner beaucoup ou donner peu, mais plutôt en ce que les riches déposent de leur surplus, de leur superflu. Ils ont calculé leurs dons, et ce don ne mettra pas en danger leurs besoins quotidiens. Alors que la veuve, au contraire, n'a pas calculé, elle a donné généreusement. Le don qu'elle fait est le signe de son amour vrai du Seigneur. Le don des riches, au contraire, est un don calculé pour se mériter les éloges des êtres humains. Il ne peut pas être agréé par Dieu, car il n'est pas un geste d'amour véritable. Les riches se méritent donc le reproche de Jésus aux pharisiens.
Vous êtes, vous, ceux qui s'adonnent pour juste devant les humains, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est le plus haut pour les humains est objet de dégoût devant Dieu.
Le don de la veuve est un don tout entier d'elle-même, comme une réponse de tout son cœur à l'amour de Dieu pour elle, et il est fait dans le secret. Un proverbe populaire dit que la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Ailleurs, la parabole du jugement dernier montrera ce qu'est le signe d'un amour vrai. Il faut qu'il soit fait sans chercher à plaire, autant pour plaire à Dieu que pour plaire aux humains. Il faut qu'il soit un geste purement gratuit. Dans la parabole du jugement, ce geste est d'autant plus gratuit qu'il s'adresse à des gens dont la situation sociale est telle qu'on ne peut rien attendre d'eux en retour. Ce sont des pauvres, des malades, des prisonniers.
Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Alors on peut peut-être tirer de ce passage une double leçon. La première, eh bien, le vrai disciple de Jésus est décrit sous les traits d'une femme et d'un être pauvre. Et cela est dans la logique de l'enseignement de Jésus, dans la logique du meilleur de la Torah. C'est en effet un être sans droit, comme sont alors les veuves, les orphelins, les pauvres, qui va représenter celui qui comprend le mieux la gratuité de l'amour. Celui qui n'a pas de droit n'a rien à défendre et à échanger. Il est souvent plus disposé, plus prêt à tout donner, à se donner, c'est-à-dire à aimer. Et cela est dit dans la première des Béatitudes, ils sont sur le chemin du bonheur les pauvres, car le règne de Dieu est pour eux. Mais il y a, peut-être, une autre leçon. De la même manière que Jésus condamne le scribe qui dépouille les veuves de leurs biens, alors que leur devoir sacré est au contraire de les assister, bien de même, Jésus condamnerait cette pratique religieuse du temple qui dépouille la veuve de ses moyens de survie au profit des sacrifices du culte. Cela ferait écho au prophète, car Dieu parle déjà ainsi dans le livre du prophète Isaïe.
« Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur, Dieu. Les holocaustes de béliers, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. » Quand vous venez vous présenter devant moi, cessez d'apporter de vaines offrandes. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Mettez au pas l'exacteur. Faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve.
Et Jésus va rappeler souvent cette parole du prophète Osée, « J'ai aimé la bonté et non le sacrifice. J'aime la connaissance d'amour de Dieu plus que les holocaustes. » Oui, Jésus n'a cessé de répéter que la miséricorde, c'est-à-dire la bonté d'un cœur sensible à la souffrance, à la misère de l'autre, que cette miséricorde est plus importante que les offrandes du culte. Lors de son action contre le temple, Jésus s'est insurgé du fait que ce temple soit devenu une maison de commerce. Les récits synoptiques illustre le fait par une citation du prophète Jérémie.
« Cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits ?»«
Caverne de bandits que le récit de Jean traduira par maison de trafic. Ôtez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » On verrait mieux ainsi le lien entre les deux portraits des scribes et de la veuve. C'est que Jésus ne peut tolérer qu'au lieu de nourrir les veuves, ceux qui prétendent être la voix officielle de Dieu, les prêtres, les scribes, que cela les réduise à la famine. Au lieu d'être nourris par les contributions faites au temple, la veuve jette tout ce qu'elle avait pour vivre dans le trésor. Jésus ne pourrait tolérer que son père, connu comme le défenseur des veuves, soit transformé, on pourrait dire, en vampire qui les saigne à blanc. Eh bien, cette leçon des scribes et de la veuve vaut toujours, tant au plan personnel qu'au plan collectif. Au plan collectif, eh bien, les pays pauvres de notre monde sont ceux qui sont sans défense et sans droit, car ce sont les riches qui fixent le prix des matières premières qu'ils leur achètent. Un exemple, au Brésil, il faut 4 heures de travail pour acheter une livre du café que le pays produit. Au Québec, il faut seulement une demi-heure de travail et de travail au salaire minimum pour la même livre de café qui nous vient du Brésil. Alors, sur le plan personnel, posons-nous cette question. Lorsque Jésus porte son regard sur nous, que voit-il ? Un scribe ou une pauvre veuve ?
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
Le numéro 514-256-4110. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.